Les petits papiers d'été qui démarrent, donc les petits papiers d'été exceptionnels avec l'an 02 s'il vous plaît et la ZAD du testé. La ZAD, c'est pour maintenant qu'il faut résister avant septembre. Donc, comme je vous disais également, nous aurons l'an 02, le magazine, oui, et oui, peut-être la suite de l'an 01, tout simplement. Donc la première partie de l'émission dédiée à l'an 02, la seconde à la ZAD du testé où le 15 août dernier, réoccupation, c'était le mot d'ordre, une poignée de résistants était là et combien par la suite, nous verrons ça. L'an 02, encore un pas de côté. L'écologie est sur toutes les bouches, toutes les ondes. Sa nécessité et son urgence sont unanimement proclamées et partout, en effet, les menaces pointent. De tous côtés, l'horizon s'assombrit sur un monde aplati, rétréci, asphyxié. Au Japon, l'inconséquence nucléaire a fait cruellement bégayer l'histoire. En Afrique, le développement perpétue sa litanie de misère, de violence, d'exode. En Occident, le capitalisme, toujours recyclé, mâche de la chlorophylle, mais ne jure que par la croissance qu'il abandonne. Pendant que son avatar chinois sous sa forme Mao mercantiliste se montre résolu à faire péter la planète sans état d'âme dans sa marche inexorable à la puissance et à son hôte du progrès. C'est le premier paragraphe du projet éditorial de l'an 02 et on reçoit aujourd'hui Aude. Bonjour Aude.
Bonsoir.
Bonsoir à toi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un heureux hasard donc qui fait qu'on se rencontre et que l'on va pouvoir découvrir avec toi l'an 02. L'an 02, tu en es donc une des cofondatrices, également rédactrice et puis finalement militante. Comment dois-je te présenter ?
Oui, c'est comme ça, c'est bon.
Ben alors, on va déjà partir tout de suite sur Kézako, l'an 02.
L'an 02, ça se présente sous la forme d'une revue tout en couleur, format A4 ou à peu près, et qui fait une soixantaine de pages dans lesquelles il y a un tiers par exemple de pages visuelles, et puis deux tiers de discours un peu militants, et puis qu'on essaie de rendre accessible. On essaie aussi d'aborder des sujets un petit peu pointus, dans l'idée toujours de le mettre à disposition de tout le monde et de pas utiliser trop de gros mots et puis de rendre ça un peu plus attrayant.
Et tu peux carrément dire que quand tu dis donc beaucoup d'images visuelles, c'est carrément de fort belles photos sur un papier glacé assez sympathique, agréable au toucher même. En fait, on sent qu'il y a une certaine recherche de l'agréable et du beau dans ce temps 02.
Ouais, ça a été un des premiers trucs qu'on s'est dit quand on a fait des réunions. C'était on parlait de faire une revue qui est belle. C'est un mot qui apparaissait souvent. Et quand on a sorti enfin la revue un an après, tout le monde nous disait la même chose. Belle, c'est une revue qui est vraiment belle. C'est le mot qui apparaissait souvent. Donc on avait réussi notre défi. Et puis c'est du papier. Ouais, puis c'est du papier. Ah, je m'aperçois que je fais un peu bouger la table. J'espère que ça
s'entend. Oh, c'est bien, ça va très bien, t'inquiète pas.
Et voilà, c'est du papier qui est recyclé à 70%, mais qui en effet a un aspect assez soigné.
C'est chic, quoi, un petit peu. C'est pas agréable à tenir en main.
C'est pas trop du granola, quoi.
C'est clair.
Mais l'idée c'est de permettre quand on a des photos ou des dessins d'avoir un rendu super, quoi. Et puis du beau papier pour présenter au mieux en fait les œuvres des artistes.
Donc ça, c'est effectivement tout le côté, on va dire, très agréable à la lecture. Après, il y a la forme qui est fort agréable, et ça ne cache rien du tout, et le fond. Alors, qu'est-ce que c'est que l'an 02? Pourquoi faire un énième magazine d'abord? Et puis pourquoi ce nom, bien sûr?
Alors, le fond et la forme, en fait, ils sont en dialogue, parce que c'est vrai qu'on travaille souvent avec des artistes qui ont des choses à dire, qui ont des modes d'intervention, en fait, qui sont un peu différents des nôtres, en fait, des discours qui sont pas aussi clairs, mais qui souvent interrogent, en fait, sur, euh, sur le monde tel qu'il est. Enfin, c'est vraiment des choses, des gens qui ont des choses à dire sur un autre registre que celui de la revue militante à laquelle on est un peu plus habitué. Et je me souviens plus de ta question.
Effectivement, tu réponds fort bien, effectivement. Tu dis, voilà, envie de ne pas faire qu'une revue militante qui s'adresse aux militants, mais quelque chose qui est peut-être plus large, qui s'adresse à un plus large auditoire.
Ouais, qui est disponible dans toutes les librairies. C'est-à-dire qui, du coup, rentre dans cette chaîne du livre avec des procédures un peu compliquées, une économie aussi qui est un peu compliquée, qui ne correspond pas du tout, pas trop à ce qu'on aurait envie de faire spontanément. Mmh. Mais l'idée étant d'être partout et qu'on puisse nous découvrir sans nous rechercher. Mmh. Et de faire des surprises.
Donc en clair, par exemple, à Toulouse, on vous trouve, on trouve le semestriel, on rappelle qu'il est semestriel. Donc l'an 02, on le trouve à Terrain Nouvin, à Ombre Blanche, et où encore ?
Chez Flourifrère aussi, je crois.
Ouais, rue de la Colombette.
Ouais.
Ouais. Donc voilà, que des bonnes maisons, vraiment branchées, les bonnes librairies, voilà, des librairies plutôt.
Oui, on a déjà fait des rencontres chez Terra Nova aussi, et voilà.
D'accord. Donc on sent que oui, ce côté d'aller aussi vers son public, mais voilà, on parle de la forme et de comment c'est distribué. C'est vrai que c'est un petit peu cher aussi, mais voilà, c'est une fois tous les 6 mois, donc 10 € les deux. Ou 7 euros donc à l'unité.
Ouais, c'est ça.
Et puis, c'est surtout, comment dire, après, au niveau des sujets, vous êtes quand même dans une veine très militante, quand même, ne vous en déplaise.
Ouais, les sujets, ils sont très militants. Okay. Après, on essaie de les aborder d'une manière un peu décalée pour pas s'ennuyer nous-mêmes, en fait. Et faire un peu poétique. On a fait un numéro, par exemple, sur les sorcières. Sur les ogres et les sorcières. Et l'idée étant qu'en fait, en fait, les sociétés dans lesquelles on vit, qui se vivent comme très très rationnelles, en fait, très très carrées et tout, sont pas si irrationnelles que ça. Puis il y a des choses un peu magiques et tout. Les incantations à la croissance, par exemple. tu vois, ce genre de choses, en fait. On trouvait qu'il y avait des caractères un peu magiques, en fait, dans la société dans laquelle on vit. On a fait aussi des choses, par exemple, sur l'action collective. Tu vois, c'est vrai qu'on a tendance à dire il faut être le plus nombreux possible et puis on va faire des choses super. Et il y a avoir un côté aussi où on regarde que le bon côté des choses, le côté de la puissance que c'est d'être nombreux. Nous, on est allé voir du côté de là où ça coince, en fait. De là où ça va plus trop, où il y a des conflits, de ce qui nous empêche un peu, de nous qui avons été élevés dans une société très très individualiste, à construire du collectif. Donc chaque fois on est un petit peu en décalage.
J'ai vu que vous avez fait notamment un dossier sur concevoir ensemble son lieu de vie.
Oui, c'était dans ce dossier qu'on avait fait quelque chose sur... pareil, tu vois, ça c'est un texte qui a été écrit par des architectes. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à leur demander ce qui coinçait, plutôt que d'avoir le discours qui dit que c'est tout beau et que voilà, c'est facile, faites-le chez vous. On avait envie, et puis on n'avait pas envie de savoir, on n'avait pas envie de savoir où ça coinçait juste pour appuyer, pour faire mal et tout, mais pour évoluer aussi, pour savoir c'est quoi nos problèmes, pour arriver à les dépasser. Quoi.
C'est le travail du journaliste quand même, effectivement, d'aller voir la situation et puis voir les perspectives possibles à partir de ce qu'on a.
Ouais.
En tout cas, j'ai trouvé sympa effectivement cette idée, on sent cette volonté de... Il y a quand même cette démarche là dans le projet éditorial dont j'ai lu une petite partie, mm-hmm. simplement, cette démarche donc de lutte contre les inégalités, donc dire que non, décidément la mondialisation n'est pas heureuse, parce que partout on sent que ça coince. Et on sent aussi que vous avez une veine quand même très écolo, quoi. Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima font partie des choses effectivement vraiment dénoncées dès le projet éditorial.
Ah oui, c'est vraiment de là qu'on vient, en fait. On serait quand même plutôt de l'écologie politique. Ouais.
Alors allons-y, qui êtes-vous au départ, les gens qui effectivement créent l'an 02, voici 3 ans, donc en 2011, c'est bien ça?
Oui, on était nombreux d'anciens de Chiche. Les jeunes écolos alternatifs et solidaires, dont il y a eu plusieurs générations de groupes à Toulouse. Et on était plusieurs générations, 3 générations de gens de Chiche.
trois générations de gens de chiche. Alors ça fait presque un discours d'ancien. Quand tu entends trois générations, ça veut dire des groupes qui, au bout de combien, de 2, 3, 4 ans, bougent, changent, split.
Ouais, c'est pas des générations de 30 ans, hein, c'est des générations d'une vie d'étudiant, et puis au bout de quelques années, tu changes de ville, tu vas faire un master ici ou là, et les gens qui s'arrêtent parce qu'ils ont des enfants. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'un mouvement de jeunes, c'est un mouvement qui est pas extrêmement stable. Et donc, tu vois, il y a des groupes qui meurent, et puis ensuite, un an après, il y a quelqu'un qui remonte le groupe, et puis...
Alors, les jeunes des Verts, alors disons-le clairement, c'était pas revendiqué, c'était les jeunes, effectivement, issus de la mouvance des Verts, hein, le parti politique, hein, disons-le, mais qui avait fait un choix d'agir autrement, finalement, qu'avec le système du parti, si je comprends bien. C'est un groupe qui décide de faire ses actions pas de son côté.
Ouais. Alors, on n'était pas exactement les jeunes des Verts, on était les jeunes des Verts et de trois autres partis politiques.
Allez, lesquels ?
Alors, je ne sais même plus comment ils s'appellent, la CAP, CES... C'est des dinosaures de la politique, c'est Convergence, Écologie, Solidarité, enfin des partis qui ont une expérience qui ont une existence que temporaire. Enfin, et puis un parti qui s'appelait à l'époque pour une alternative rouge et verte, et qui s'appelle les Alternatifs aujourd'hui. Et qui est un petit parti qui... Et donc on avait deux jambes, il y en avait juste une qui était énorme et l'autre qui était toute petite. Mais on a toujours été un peu arcade dans la mesure aussi où, tu vois, on parlait avec d'autres partis politiques qui avaient une autre culture, tu vois, qui est plus Parti Socialiste Unifié, PSU, ouais, une culture vraiment rouge et verte, éco-socialiste, alors que les Verts étaient plus à l'époque en lien avec les assauts environnementales, avec tout ça.
Donc l'époque, c'est quelle époque ?
L'époque, c'est la fin des années 90, c'est la candidature de Voynet en 95, c'est décembre 95, c'est tout ça en fait. Ça a été créé en 96. Et on a acté la mort de Chiche à Notre-Dame-des-Landes en l'été 2009.
Et pourquoi donc ? Est-ce que tu peux revenir dessus ?
Pourquoi ? Moi, j'étais juste observatrice, j'étais déjà trop vieille, mais, non, plus trop d'envie en fait de faire ça. Puis envie aussi de rejoindre d'autres groupes, de se fondre dans un collectif plus gros, donc... Voilà.
Comme si aussi peut-être les Verts ne suffisaient plus donc aux espérances de Chiche.
Oh, les Verts, on avait rompu avec eux bien avant en fait. Mmh. On avait rompu avec eux vers les années 2000 à peu près. Parce qu'il y avait des gens chez les Verts qui avaient envie d'avoir un mouvement de jeunesse plus normal.
Normal.
Ouais, plus calme, plus raisonnable, plus... Alors ils ont monté un mouvement de jeunesse. Lequel est devenu complètement foutraque parce que c'est un mouvement de jeunesse en fait. Donc voilà, on a beau créer de toutes pièces des mouvements de jeunesse bien calmes, en fait, si on met des jeunes dedans, au bout d'un moment, c'est ingérable.
Bah, globalement, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que c'est un socle, une espèce de cadre qui a été créé par les Verts dans lequel on a inséré des gens, genre mettez-vous là bien parqués quoi.
Ouais, il y a eu ça au début. Puis en fait, très vite, c'est devenu les jeunes qui sont arrivés se le sont réappropriés. Et puis voilà, on a fait à peu près les mêmes choses, on s'est retrouvés sur les mêmes actions. Enfin,
voilà. Et quelle est la différence de Chiche, justement, avec ça, très nettement pour toi ?
La différence de Chiche avec ça, je saurais pas dire. Mais alors, un truc qui était intéressant à Chiche, en fait, c'est qu'on avait vraiment, vraiment brassé très, très large. On avait des gens plutôt des autonomes, en fait, qui étaient plutôt anards. On avait des gens plutôt environnementalistes. On avait plutôt des gens plutôt sociodémocrates. C'était mon cas à l'époque. J'étais jeune. Et on avait vraiment tout le monde qui était assis à la même table et qui se fritait. Mais on était assis à la même table. Et voilà, c'était pas mal. Puis on faisait beaucoup d'actions directes, un petit peu médiatiques, un peu comme ça. Mais c'était à l'époque, on n'était pas encore blasés d'essayer d'atteindre un petit peu l'attention des journalistes et tout. Ouais. Voilà.
Effectivement, sur Toulouse, en fait, en tout cas, et sur cette antenne, effectivement, il y a eu plusieurs fois des gens dans de Chiche qui sont passés, dont on a fait aussi un petit peu donc le lien avec les auditeurs. Et puis, il y a eu notamment toutes ces actions sur Toulouse, deux journées sans achat. Tu me parlais, moi, je les ai pas vues ces journées-là, mais les zombies des supermarchés, c'est ça ?
Ouais. C'est une action assez simple, en fait. Il suffit de faire le zombie dans un supermarché. Au moment des soldes, dans un centre commercial, enfin c'est assez facile à mettre en place. Ouais.
Et puis il y a eu des actions de chiche diverses et variées. Je crois que le chiche faisait partie du CANT aussi, du collectif antinucléaire toulousain.
Ah oui,
quand même,
ouais.
Ça a été aussi important. Les quelques actions un petit peu importantes qui ont eu lieu sur Toulouse, souvent ont été aussi menées avec des gens de chiche. Je pense que chiche était déjà présent lors de, je crois que c'était au mois de novembre quand il y a eu, enfin donc il y a quelques années, la mort de Sébastien Bria. Mm-hmm. Donc on rappelle, jeune homme de 23 ans, donc qui essayait avec d'autres d'arrêter un convoi de cargaison, donc un train de convoi nucléaire, donc de déchets nucléaires, et qui en est mort. Mmh. Et donc il y a eu pas mal d'actions, donc les mémoires l'ont un peu oublié, mais certains n'ont pas.
Ouais, il y avait des gens de chiche sur cette action, il y en a eu à peu près tous les hivers en fait.
Et il y a eu encore des gens de chiche effectivement pour être présents donc au moment de Fukushima, quand il y a eu effectivement tout ce qu'il y a eu ici sur Toulouse au niveau de... C'était plus des personnes issues de et qui représentaient...
Oui, c'était des anciens de chiche.
Des anciens. En fait. Mais on sentait bien effectivement une mouvance de gens qui veulent bouger, qui veulent faire. Donc finalement, vous blasez un petit peu de chiche à ce moment-là et vous lancez avec d'autres, l'an 02. Quels autres donc qui ne font pas partie de chiche par exemple?
Non, on a fait ça à peu près tout seul. Il y a eu tellement de gens qui sont passés par chiche en fait qu'on a eu le choix en fait.
Alors revenons donc à l'an 02 et cette aventure. Déjà savoir actuellement donc c'est un semestriel, il fait 60 pages de très très belle qualité, donc c'est un plaisir d'avoir, c'est un objet aussi, hein.
Merci.
C'est un objet magazine, pas livre encore, mais donc avec une mise en page très très claire et en même temps très fournie au niveau du propos. Je reprends aussi des dossiers que vous avez fait le dossier « Nous avons besoin d'une critique de gauche de l'État ». Si tu peux me décrypter, vas-y.
Ah oui, alors ça c'est un article de Jacques Prade.
Uh-huh.
Jacques Prade qui
est sur Toulouse.
Qui est sur Toulouse, qui est un Toulousain, qui s'occupe d'économie sociale et solidaire, et pour qui l'économie sociale et solidaire donne les moyens de créer localement des structures et puis même d'imaginer le dépérissement de l'État à travers des petites communes autogérées qui produisent ce qu'elles consomment, qui consomment ce qu'elles produisent. Voilà, c'est assez excitant en fait comme texte, je le cite assez souvent.
D'accord, ouais. Nous avons besoin d'une critique de gauche de l'État. Oui, voire je pourrais même aller plus loin, hein. On aurait peut-être besoin d'un État de gauche, peut-être.
Ouais, ça, c'est une autre
pour de vrai.
Une autre chose.
Une autre chose, donc c'est de la fiction là pour l'instant. Donc j'ai vu notamment aussi comme article ou comme dossier, je ne sais plus, contre le vandalisme de quelques-uns, Thoreau, T-H-R-E-A-U, Thoreau et la gestion collective de la nature, Thoreau qui est notamment beaucoup repris par tout ce qui est culture de la non-violence.
Ouais, c'est un auteur qui est assez à la mode en fait, qui est beaucoup traduit en ce moment. Publié, enfin il y a moyen de lire tout son journal et c'est un auteur qui a passé 22 mois dans une cabane au bord d'un lac,
ouais.
Et qui était un adepte un peu de la simplicité volontaire, de l'action de désobéissance tout ça, ouais.
Oui, qui s'était illustré en étant lui-même désobéissant, refusant notamment d'infliger, quand il était instituteur, des châtiments corporels aux enfants.
Et, oh, je savais pas ça.
Et il s'est fait notamment, il a perdu son poste notamment. Et puis, il a aussi refusé de payer ses impôts pour la part qui revenait à l'armée.
Oui, il a refusé de payer ses impôts. Mmh. Alors, c'est vraiment une grande histoire. Il est allé en prison et le lendemain, sa mamie est arrivée et elle a payé pour,
la caution.
Elle a payé pour lui.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc quelqu'un qui marque un petit peu une culture de non-violence, de désobéissance. Et puis, je vois aussi que vous avez fait un article de Léa Sébastien, si tu peux m'en parler plus, sur les nimbis. Le nimbi contre l'intérêt général, tout contre. Donc, qu'est-ce que le nimbi? Ça, c'est très sympa et très parlant, je trouve aussi, une fois qu'on sait ce que ça veut dire, bien sûr.
Ouais, alors Léa Sébastien, Léa Sébastien, elle est toulousaine aussi, elle est géographe au Mirail. Et alors voilà, ça c'est un nouveau dossier, c'est celui qui de notre dernier numéro, qui s'appelle Alerte au territoire, avec l'idée de parler des projets d'aménagement comme le Grand Paris, comme des projets qui ont lieu aussi, comme l'autoroute A65, en essayant d'accentuer la question politique, en fait, la question d'élite autoproclamée qui décide d'aménager par en haut un lieu que les habitants vivent de manière totalement différente, en fait, et qu'ils ont envie de protéger. Et alors, NIMBY, N-I-M-B-Y, ça veut dire « not in my backyard », ça veut dire « pas dans mon jardin ».
Voilà.
Et ça sous-entend « pas dans mon jardin », mais un petit peu ailleurs, si vous voulez, c'est pas un problème.
Voilà, genre l'autoroute, la centrale nucléaire, la déchetterie, les déchets toxiques, tout ce qu'on veut, mais d'accord, « not in my backyard », NIMBY.
Et en fait, c'est une accusation qui est souvent donnée, en fait, aux gens qui protestent contre des projets d'aménagement. On leur dit qu'ils sont, en fait, d'affreux égoïstes qui ont besoin de l'aménagement en question, parce que évidemment, on ne peut pas faire sans électricité, on ne peut pas faire sans aéroport, on ne peut pas faire sans machin. Ils ont juste envie que l'aéroport, les nuisances, en fait, soient un petit peu plus loin. Et en fait, ça c'est... Alors je sais pas si ça a une réalité, je pense que ça a une réalité, en fait, cette vision des choses. Mais ce qu'on observe aujourd'hui depuis 5, 10, 15 ans, c'est que quand même il y a un enrichissement incroyable des mouvements d'opposition au projet d'aménagement. T'as un discours qui se construit, qui pense vraiment le bien commun, qui pense vraiment à comment est-ce qu'on peut faire sans cet aménagement, plutôt que comment est-ce qu'on peut faire avec cet aménagement ailleurs. Et en fait, Léa Sébastien, elle s'intéresse à un petit village, la commune de Saint-Escobille, au sud de la région parisienne, un territoire rural, mais en Île-de-France. Et comment, en fait, une petite association est passée d'une opposition assez franche et simple, et pas chez nous, est devenue une référence dans le domaine des décharges, en fait, de déchets.
D'accord.
Et a produit tout des alternatives, enfin a produit un discours sur les alternatives, sur les manières aussi de gérer les déchets autrement qu'en les enfouissant ici ou là.
Donc les gens qui habitent cette commune qui ont produit ça.
Une fois
qu'ils ont eu la déchetterie dans la figure, si je puis dire.
Ouais, alors ils l'ont toujours pas. Ils sont toujours menacés par la déchetterie. Mais il se trouve que le truc a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, en fait, d'être menacés par le projet, ils se sont formés, ils ont découvert plein de choses sur qu'est-ce que c'est qu'une décharge, comment ça fonctionne, quelles sont les alternatives. Et donc, ils sont devenus des spécialistes de la gestion des déchets pour produire, du coup, un discours qui peut être une alternative concrète à ce qu'on leur proposait. Autrement que pas dans mon jardin, mais ailleurs.
Intéressant, parce qu'effectivement, la démarche pas dans mon jardin, donc not in my backyard, NIMBY, donc c'est un peu ce qui se passe tout le temps. Je veux dire, ça nous dérange pas qu'il y ait de l'uranium puisé au Niger, etc. Puisque de toute façon, c'est pas chez nous que ça pollue, donc.
C'est vrai que là, on arrive à un degré de conscience et tout par rapport à toutes les nuisances et tout qui est sur le plan national et tout. On arrive à comprendre qu'on n'a pas envie que ça se passe chez l'autre, mais il y a beaucoup de choses qui restent complètement invisibles. Et par exemple, hier, je parlais des terres rares. Invité à l'émission magazine. Et je parlais d'une usine de terres rares et toutes les nuisances, en fait, que ça occasionne. Et c'est vrai que les terres rares, quand tu achètes un iPhone, oh, les terres rares, c'est toute une série de minéraux qui sont complètement indispensables dans les téléphones mobiles, qui sont indispensables dans les batteries, dans les LED aussi, dans toutes sortes d'équipements, y compris des équipements écologiques, et verts, et durables, et tout ça. Et en fait, c'est des terres qui sont assez compliquées à traiter et qui produisent beaucoup de déchets radioactifs.
Rien que ça.
Parce qu'il faut secouer des tonnes et des tonnes de terre pour avoir un tout petit peu de terre rare. Et les terres d'à côté, les terres qui sont mêlées aux terres rares, c'est des terres qui sont radioactives, naturellement. Mm-hmm. Mais le fait de les sortir de là où elles sont et où elles font un petit bruit de fond mm-hmm. radioactif et de les mettre toutes au même endroit, ça pose des problèmes. Des problèmes de santé.
Effectivement. Donc ça, cette question, not in my backyard, c'est partout que ça pourrait se poser finalement.
Ouais. Il s'agit de mettre un peu en lumière pour qu'on se rende compte un peu de l'impact de tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, la dynamique qu'il y a de dénonciation des grands projets inutiles est assez intéressante en fait. Et c'est un sujet qui sera traité dans le prochain numéro.
Aussi.
Donc c'est sur la coordination sur comment est-ce que les opposants aux grands projets inutiles se coordonnent entre eux et puis nourrissent un discours d'opposition qui est assez global en fait et qui est une critique de la société, une critique des projets productivistes, de fuite en avant, économiques et écologiques. Mmh. Et voilà, c'est un sujet qu'on traite avec l'aide de reporters, avec un journaliste de reporters qui écrit pour nous un échange de... Alors, il s'appelle Barnabé Bengtin.
Mené par Hervé Kampf, effectivement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, donc, vous en êtes au numéro 5 et que le 6 va bientôt sortir. C'est quand ?
Le 6 va sortir fin septembre, début octobre.
D'accord, donc on le retrouvera donc dans toutes les bonnes librairies ici et ailleurs. Vous avez donc une adresse qui est à Paris par contre, ça c'est une adresse contact, c'est un contact global en fait. J'ai une adresse donc Cité le Roi à Paris dans le 20e.
Ouais, alors c'est le copain qui s'occupe des abonnements. Si jamais vous écrivez, vous envoyez un petit chèque à Cité le Roi, ça sera à Paris, chez un membre de la rédaction. En revanche, notre imprimeur, lui, dans le Nord, il a une rue de la Belgique. et je suis venue ici, en Midi-Pyrénées, pour bosser avec des copines qui sont en Midi-Pyrénées, en Aquitaine. Et donc, on est un peu tous séparés.
Et en même temps, donc, c'est ça, vous recueillez des articles de gens aux quatre coins de la France, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est ça.
D'accord. Donc, c'est vraiment donc c'est le groupe affinitaire. Tant pis, enfin, il peut bouger, les sujets peuvent bouger. De toute façon, ça... Toujours le même esprit, si je comprends bien, toujours sur ce projet éditorial. L'an 02, pourquoi, bien sûr ?
Ah, l'an 02, parce que l'an 01...
Bah oui, évidemment.
Ouais, l'an 01, alors on a été surpris hein, quand on a sorti de s'apercevoir qu'en fait, on voulait faire une revue qui s'adresse à tous et qui prend les gens par surprise, et ils le lisent, et puis c'est une belle revue et tout ça. Et voilà, ils découvrent l'écologie. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un titre complètement abscon. Que l'an 02, en fait, ça disait rien à personne. Que l'an 01, en fait, n'était pas le film culte que tout le monde connaissait, qui était le film culte que tous les militants anti-travail et militants écolos connaissent, mais ça va pas.
Militant ou simple poète de la vie, parce que je crois que c'est vraiment une magnifique utopie, qui peut parler aussi à tout plein de cinéphiles, enfin, je sais pas.
Ouais, des cinéphiles, je sais pas. En BD, par exemple, il ressort en BD à l'automne.
Et donc, vous êtes aperçu que c'était pas si connu que ça, donc je te laisse finir.
Oui, on s'est aperçu que c'était pas si connu que ça, et puis le logo était pas non plus très très lisible, mais voilà, on s'appelle l'an 02 parce que voilà, l'an 01 c'était une démarche qui nous est pas mal tripée. On n'a pas réussi à être aussi drôle et tout, mais on a une démarche un peu comme ça, décalée,
un peu
poétique. Ouais, on essaie de faire ça, ouais. Et puis c'est moins pour montrer ce qu'on a réussi à faire. Regardez, nous sommes les héritiers de l'an 02, de l'an 01. Uh-huh. Que pour se donner un but, en fait, de faire quelque chose d'aussi sympa que l'an 01.
D'accord. Donc, renvoie à l'an 01. Donc, à tous ceux qui l'ont pas vu, empressez-vous d'aller chercher ça sur Internet, ça se trouve. Enfin, bon, et c'est hyper nécessaire, effectivement, une utopie presque vivante, on y croit parfois.
Ouais, c'est en noir et blanc, et puis le son grince un peu et tout, mais ça parle vraiment très fort. Ouais.
Tout à fait. Sur Toulouse, il y a eu plusieurs groupes qui ont fait des projections en plein air et vraiment, c'est salutaire toujours. Donc, l'an 02, l'an 01. Alors, on a la date du test théâtre après. Alors, du coup, on avait vu qu'il y avait un très beau texte, donc un poème, dans le numéro 5. Si tu voulais justement nous l'offrir.
Écoute, j'ai pensé à un qui vous ferait plus sourire à Toulouse, en fait.
Allez, d'accord. Donc, tu nous raconteras de. Donc, voilà. Bah, je te laisse donc nous le présenter, nous le lire, alors, Aude.
D'accord. Alors, c'est tiré du Robert des Aménageurs qu'on a nous-mêmes inventé. C'est la définition du verbe désenclaver. Désenclaver. Verbe transitif direct. Apparu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, signifie alors l'action de rompre par la route ou le chemin de fer l'isolement d'une partie du territoire qui était jusqu'alors enclavée, du latin inclavare, fermé avec une clé. Alors que la France se couvre progressivement du million de kilomètres de routes et des 30 000 kilomètres de voies ferrées actuelles, alors que chaque lieu habité du territoire est rendu facilement accessible en voiture ou en train, le mot perd progressivement son sens initial. Désenclaver signifie aujourd'hui l'action qui permet de faire accéder plus vite à la capitale, entre parenthèses Paris, depuis un point quelconque. Exemple : la ligne à grande vitesse doit désenclaver Toulouse. Ou il faut désenclaver la Bretagne. Par extension, sont considérés comme enclavés, et donc à désenclaver, tous les territoires et leurs habitants non équipés d'une ou plusieurs infrastructures de transport rapide, autoroutes, lignes à grande vitesse, aéroports. À donner, début XXIe siècle, nous étions tellement enclavés, ou se faire désenclaver, et plus récemment, aller tout doux faire enclaver. Vulgaire.
Un texte que l'on doit à qui ?
Que l'on doit à la rédaction.
La rédaction, merci la rédaction. Donc vous êtes bien fendu la poire sur désenclaver. Et c'est le dossier en même temps. Hein, on rappelle.
Oui, c'est des copains désenclavés de l'autoroute A65 en fait, qui ont été le plus motivés pour écrire le texte. Ouais.
D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi une photo avec un monsieur avec une pancarte, visiblement dans une manifestation, où une note désenclavée, enclavée, heureux, c'est ça ?
Oui, c'est un monsieur qui est enclavé et qui est heureux.
Enclavé, heureux, c'est oui. Je crois que c'est un terme qui va bientôt faire partie effectivement du vocabulaire courant, malheureusement. Et merci effectivement sur Toulouse. Oui, on risque malheureusement d'être désenclavé par cette LGV qui nous fout un bordel monumental. Sur Toulouse et ailleurs, quoi. Surtout, enfin, tout autour, c'est terrible, quoi. Merci beaucoup de toutes ces informations. J'aimerais te laisser le mot de la fin. Donc, parce qu'on peut faire un mot d'ailleurs de transition, Aude, puisque donc le sujet qui suit, c'est la ZAD du Testé. La ZAD du Testé, ce petit territoire, donc, mais quand même 28 hectares de forêts, zone humide, classée, zone protégée, espèces protégées, etc., qui risque d'être à partir du 1er septembre, donc, rayé de la carte, quoi, c'est-à-dire si ils arrivent à le faire. Et donc, il y a ce week-end, 23 à 24 août, un grand week-end organisé par le collectif de défense, donc, de la zone humide du Testé, le collectif Testé, le collectif le plus ancien, le plus légaliste, et qui fait là un week-end qui envoie du bois, et tu es l'invité également de ce week-end.
Oui, j'espère passer pour parler d'un projet de barrage en Malaisie avec des gens qui luttent contre un barrage. Alors pour le coup, c'est 400 km² de terre qui sont potentiellement inondées.
Ouais, donc pas inintéressant que tu aies en parler effectivement au Testé, ça c'est sûr. Et voilà, et je voulais te laisser quand même le mot de la fin sur l'an 02.
Mais qu'est-ce que tu veux que...
Ce que tu veux.
Que l'an 02, ça paraît que tous les six mois, parce que c'est très fatigant à produire, et qu'on est tous bénévoles, et surtout, on apprécie beaucoup quand les gens s'abonnent, et que, quand on les croise, ils nous disent qu'ils aiment bien, comme tu le fais ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir, et merci beaucoup pour ce que vous faites. Donc, vraiment, continuez. L'an 02, un pas de côté, dans toutes les bonnes librairies. Donc, on le rappelle. Et maintenant, on va écouter, on rappelle, donc je vous rappelle tout de suite, donc la ZAD du Testé, c'était le 15 août dernier. L'appel avait été lancé par le collectif des Bouilles, appel à réoccupation de la zone, le jour même, et non, ça n'a pas été vraiment possible de réoccuper en tant que, comme l'aurait voulu effectivement le collectif des Bouilles, pour la bonne raison qu'il y avait effectivement des gendarmes à tous les carrefours menant à la ZAD même. Cependant, une grande réunion a eu lieu sur la maison forestière de Sivens, qui reste d'ailleurs le lieu de rendez-vous. Et bien, on s'écoute d'une part le son récolté donc par mes soins le 15 août avec un montage que l'on doit au magazine. Merci le beau blond du magazine d'avoir fait ce beau boulot et donc qui nous a ajouté de la musique à sa sauce, mais on assume aussi, on assume tout. Voilà, la ZAD du Testé, c'était le 15 août et ça continue. Voilà, il y a des sites donc collectif Testé et sur les collectifs Bouilles, je le redonne à la fin. On s'écoute ces 20 et quelques minutes de reportage ZAD du Testé, montage magazine.
Muriel, j'habite dans le Tarn, ouais, à Groyais. Et donc je suis là pour la réoccupation du barrage du Testé, voilà.
Tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier. Des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement. Du déboisement.
Il y a un projet de barrage sur la vallée du Tescou, donc zone du Testé, forêt de Sivens, dans le Tarn. Et donc on s'est battu déjà toute l'année dernière contre les travaux de déboisement pour faire ce barrage, à notre avis, inutile et imposé. En fait, qui est très symbolique des magouilles, où il y a des personnes du Conseil Général. Donc le Conseil Général finance le barrage. Les gens qui sont au Conseil Général sont aussi dans la société qui construit le barrage, donc qui est payé pour faire ça. Et ensuite, la finalité donc de ce barrage, c'est de arroser des champs de maïs qui sont un peu plus loin dans le Tarn et Garonne. Voilà, champs de maïs qui, à notre avis, n'ont pas lieu d'être, vu que c'est pas du tout une culture déjà appropriée au sol, qui demande beaucoup d'eau pour un maïs, je sais pas si c'est pour des semences ou pour le bétail ou quoi, mais pas forcément un maïs non plus qui respecte la biodiversité, etc. Après une petite pause d'été, on est reparti là depuis aujourd'hui, 15 août, jusqu'au 1er septembre, date légale de déboisement. Voilà, le Conseil Général veut recommencer les travaux à partir du 1er septembre.
Dans les forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Dans les forêts sacrifiées pour la pâte à papier. Des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement. Du déboisement.
Je m'appelle Olivier et je suis là pour m'opposer à la construction de ce barrage inutile. Voilà, enfin à mes yeux, vraiment inutile. La zone est occupée par les policiers et on n'a pas encore vraiment établi de stratégie. Ils sont là en nombre, ils sont beaucoup. S'il y a des gens qui nous entendent, qui viennent, parce que voilà, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Sinon, ça sera pas évident, quoi.
En quoi ça va impacter ta vie au quotidien ici, s'il y avait des barrages ?
C'est comme les gens qui se mobilisent pas tant qu'on leur construit pas une centrale nucléaire à côté de chez eux. Le jour où il y a la centrale à 1 km, ils sont là, mais sinon, le reste du temps, ils s'en fichent. Eh ben oui, moi j'ai pas envie qu'il y ait des autoroutes partout, des aéroports partout, des barrages partout. Je veux dire, donner de l'argent aux bétonneurs, ça suffit, quoi. Il faut aussi soutenir et promouvoir des projets plus sympas, quoi. Voilà, une agriculture sympa, avec des gens qui cultivent pas avec des énormes tracteurs, des immenses champs à perte de vue, enfin, etc.
Et comment tu expliques une telle présence policière ?
Ben parce que là, c'est un peu le moment ou jamais pour eux, comme ils devraient pouvoir redéboiser légalement à partir du 1er septembre. Donc ils mettent le paquet pour éviter que les gens se réinstallent sur la zone, quoi. Pour eux, c'est plus difficile, faut expulser les gens, tout ça. Alors voilà, là, ils ont mis le gros paquet de flics, quoi, pour nous empêcher d'être là.
Alors c'est l'heure du déjeuner ici dans cet espace à la maison forestière de Sivens. Donc nous sommes ici donc sous le soleil et c'est plus ou moins le moment du pique-nique.
Alors je m'appelle Katia, je suis j'habite Castelnau de Montmiral. Ben oui, je suis totalement contre le barrage, contre ce barrage qui ne servira qu'à 25 personnes. Des maïs culteurs qui vont faire du maïs, j'ai envie de dire, de mauvaise qualité. Et voilà, qui va coûter une fortune et qui n'est pas nécessaire à tous. Ils veulent tout ravager, tout couper. Au niveau de l'écologie, c'est une catastrophe. Et il faut savoir que là où ils veulent faire le barrage, il y a des espèces protégées, il y a des animaux, des espèces protégées qui ne peuvent vivre que là. Donc le barrage, ça veut dire extinction des espèces. Déjà pour les animaux, puis ensuite abattage des arbres, des superbes arbres qui seraient abattus. Donc une véritable catastrophe écologique.
Dans la forêt, il y a un vieux chêne, un bon vieillard en bois d'arbre touffu. Au cœur du chêne murmure une fontaine que nul n'a jamais vue.
Cet endroit, je le connais depuis 25 ans. Je m'occupais des enfants à Castelmont-Miral, à famille rurale. Et donc, on avait l'habitude de venir ici, à la forêt de Sivens, où on est actuellement. Et en bas, là où ils veulent construire le barrage, où il y a un petit ruisseau, il y a des murs. On ramassait les murs, on faisait des jeux en bas. Donc, c'est un super souvenir pour moi et pour toute une jeunesse des environs. On a un superbe coin, calme, tranquille. Là, le matin, il suffit d'y aller de bonne heure. Le matin, on voit les chevreuils, on voit des écureuils en liberté. C'est un petit paradis. Et voilà, barrage veut dire destruction, veut dire abattage des arbres, le désert. C'est pour ça que je suis absolument contre ce barrage.
Il y a tant de forêts, il y a tant de ruisseaux. Voici mon secret, m'a dit un oiseau. Un soir d'hiver, lorsque dormait le chêne, un soir d'hiver, la forêt s'était tue. Un oiseau-lait, plus petit qu'une faine, dessous l'écorce est entré. Je l'ai vu. Il y a tant de forêts, il y a tant de ruisseaux. Voici mon secret, m'a dit un oiseau. Cœur de mon âme, il le chêne, et dans son cœur que nul n'a jamais vu, il s'est posé au bord de la fontaine, et dans son cœur doucement il a bu. Il y a tant de forêts, il y a tant de ruisseaux, voici mon secret.
Donc là, il y a pas mal de policiers autour. Cette présence policière, qu'est-ce que ça te provoque ?
Alors, ça me provoque une grande colère parce que je pensais qu'on était dans un pays libre. Je pensais qu'on avait le droit de dire et de penser ce qu'on voulait. Et apparemment, c'est pas du tout le cas. Puisque là, cet après-midi, ce matin, on a voulu aller se promener pour montrer à d'autres gens où allait être construit le barrage. Et les gendarmes nous ont interdit de nous déplacer à plus de 3 personnes. En passant par la route, tranquille, sans sac, sans rien, tranquille, on nous a interdit. Voilà, alors qu'on est totalement pacifique. Depuis donc ce matin, déjà, il y a une grande évolution. On est arrivé, on était 20. Donc là, on est quelque chose comme 50, 60 personnes. La suite, je pense que ça va faire boule de neige, que grâce aux médias, grâce aux personnes qui se déplacent et qui ont une sacrée énergie, ça va se savoir, ça va continuer, on va se mobiliser de plus en plus et la lutte continue et on va gagner.
Alors moi c'est Romain, donc on est arrivé à vélo d'Aurillac pour le tester, voilà, on est passé sur zone et du coup essayer de retrouver les copains et donc on a esquivé un premier barrage voilà de gendarmes et on s'est fait prendre après pour une circulation qui était autorisée mais avec un arrêté bien flou sur la possession de matériel de camping ou de construction. Du coup ils nous ont réquisitionné en stipulant un arrêté qu'ils n'avaient pas spécialement matériel, sachant qu'en fait le moment ça a été de la négociation et donc du coup l'occasion d'avoir une discussion avec eux sur comment ils procédaient et qu'est-ce qu'ils faisaient respecter et qu'est-ce qu'ils protégeaient. Donc ils ont dit qu'ils protégeaient la démocratie. On voit bien qu'on a réussi à négocier avec eux, donc les ordres ils en ont, mais ils ont quand même une conscience. On a parlé avec eux et c'était voilà, pour eux ils reconnaissaient qu'il y avait un peu de schizophrénie dans ce qu'ils faisaient. Donc voilà, c'est toujours la question de savoir comment on instrumentalise les forces de l'ordre en fonction des pouvoirs établis et que là bah, c'est tout le temps un flux tendu et que voilà, on est tout le temps les dindons de la farce dans cette histoire quoi. Et sinon, voilà, on est venu à vélo pour dire aussi qu'il y a d'autres moyens de se déplacer. Et voilà, on est arrivé d'Aurillac et donc ça, ils ont compris. Du coup, ils ont quand même eu de l'empathie à ce niveau-là, mais ils s'en foutaient de nous voler notre toit et notre réchaud pour le soir, quoi. Voilà. Et donc du coup, ils savaient pas spécialement pourquoi ils étaient là, comme toutes les garnisons qu'on appelle dans des lieux où voilà. On bloque soit l'accès ou on défend certaines personnes de vivre quoi.
Parti à quelle heure d'Aurillac ?
Ah, bah nous on a mis une semaine et demie pour arriver. Voilà, donc on est passé par la rencontre des possibles où il y avait déjà des copains qui parlaient un peu du testé et voilà des jolis ateliers. C'était une belle rencontre. Et donc du coup c'est un voyage militant aussi quoi. Voilà.
Donc en clair, ils vous ont réquisitionné quoi exactement ?
Du coup, une tente, deux matelas, deux duvets, un réchaud et un sac étanche. Ils se sont permis de regarder un petit peu les sacoches, mais en fait, ils ont fouillé le sac d'un copain qui est passé avant, qui a fait un peu plus de résistance que nous, on a fait parce qu'en fait on essayait de parler et essayer de trouver un petit peu les couacs dans leur discours et donc du coup on s'est rendu compte que voilà il n'y avait pas d'officier judiciaire dans le lot et ils ont quand même pu ouvrir les sacs et contrôler.
Son parti contrôle l'identité formule devenue classique à laquelle tu dois t'habituer seulement dans les quartiers les condés de la mute peau toi on trop amusé aussi sachez que l'air est chargé d'électricité alors pas le respect pas le pitié escompté vous aurez regret jamais par la répression vous n'obtiendrez la paix de l'âme le respect de l'homme mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand il passe uniforme préférons au fond la forme peur du hors norme pire encore si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme véritable corps organisé hiérarchisé protégé sous la tutelle des hautes autorités port d'armes autorisées malgré les valeurs énoncées comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée souvent mentalement retardé le portrait type le prototype du pauvre type voilà pourquoi dans l'excès le zèle ils excellent voilà pourquoi les insultes de fusquent passent les hirondelles dans notre passion ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils
police machine matrice des cerveaux les mandats
police machine matrice des cerveaux les mandats.
Comment vas-tu faire pour récupérer le matériel ?
Il faut qu'on aille à Gaillac à vélo pour le récupérer. Donc on va en profiter pour aller diffuser un petit peu d'infos là-bas. Voilà, il faut toujours servir des petits moments comme ça pour rebondir.
Toujours aujourd'hui, 15 août, ici dans la forêt de Sivens, en compagnie d'une zadiste. Bonjour.
Salut. Alors, je m'appelle Elo, je suis sur la ZAD depuis le mois d'octobre 2013. Et en fait, aujourd'hui, je suis venue pour organiser la réoccupation de la zone avec les copains et les copines qui sont là.
Et tu peux m'en rappeler quand même donc la finalité de cette lutte?
La finalité de cette lutte, bah, c'est de protéger la nature, protéger le peu d'endroits sauvages qui restent encore. C'est une zone humide, il y a énormément d'espèces protégées. La lutte, c'est au final contre cet État qui bétonne tout pour du profit et qui oublie que quand il y aura plus d'arbres, quand il y aura plus d'animaux, l'argent pourra pas le manger, quoi. Et on pourra pas dormir dedans et ni quoi que ce soit. Donc c'est une lutte pour le vivant avant tout.
Comment ça se passe depuis ce matin?
Eh ben écoute, c'est super chouette. On voit des gens arriver toutes les heures. Au début, ce matin, on était 10 à accueillir les personnes, puis on s'est retrouvé à 20, à 30, et là, je pense qu'on est une soixantaine de personnes sur la zone. Donc c'est super chouette. Il y a plein de propositions, plein d'envies. On essaie de s'organiser. Voilà.
Est-ce que tu peux nous planter le décor? Est-ce que voilà, cette réoccupation est-elle vraiment faisable?
Alors c'est assez compliqué parce que l'appel à réoccupation a été diffusé largement dans les médias alternatifs au niveau de, enfin voilà, on se cache pas. Donc effectivement les autorités elles ont pris des mesures pour empêcher les rassemblements. Donc ça fait une semaine qu'ils sont en train de placer des pions, on va dire, assez au niveau juridique et procédurier. Donc on a interdiction de camper sur la zone. On a interdiction de se rassembler depuis hier sur la commune de Lisle-sur-Tarn, donc là où il y a la zone humide du Testé. On a interdiction de faire des feux, interdiction de circuler également sur la D132, donc la route qui traverse la ZAD. Donc c'est assez compliqué pour nous de se rassembler sur le lieu et de pouvoir se dire on va monter une cabane tout de suite. Ça c'est compliqué, ça va prendre du temps. Donc là la réoccupation, on va s'organiser d'une autre manière. Ça va pas du tout être le même mode que l'année dernière.
Christian, je suis là pour défendre la zone humide du Testé, cette vallée magnifique, et donc qui serait détruite par le projet de barrage de Sivens. Au départ, c'est parce que je trouvais l'endroit super, et donc comme j'aime bien les balades et tout ça, je trouvais que c'était un peu dommage qu'on fasse un lac ici, bien que je me disais un lac c'est pas si mal que ça. Mais après, en fouillant, en essayant de voir les raisons pour lesquelles était fait ce lac, parce que je me suis dit, pourquoi pas, si vraiment il y a un intérêt et tout ça. Et en fouillant, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun intérêt général dans ce barrage, qu'il est largement surdimensionné et que ça profite vraiment à des intérêts très particuliers, comme la CACG et une poignée d'agriculteurs, et qu'il y a bien d'autres solutions possibles que de détruire cette zone humide, qui est la dernière du Testé. Et à la suite de ça, on a essayé de discuter, donc d'expliquer aux conseillers généraux la justification ne valait pas. On a donné nos justifications, ils n'ont jamais voulu discuter. Et maintenant, j'ai une troisième raison pour laquelle je suis là, c'est on est dans un déni de démocratie, c'est-à-dire que pour moi, des élus, hein, quand des citoyens alertent, jouent un rôle d'alerte aux élus en leur disant « Voilà, vous vous faites embobiner, ce projet il est pourri, il ne sert pas des intérêts publics, mais il sert des intérêts privés », ils n'écoutent pas, ils se soudent entre eux et le citoyen, il le méprise. Je pense que si on cède là-dessus, ça veut dire qu'on laisse la place ouverte à aller vers une dictature. Déjà, ça va pas très bien, mais on va aller accentuer des pratiques qui seront de plus en plus dictatoriales. Et moi, j'appelle tous les citoyens à s'élever contre ça, parce que là, ça devient très, très, très grave pour la démocratie, pour notre avenir.
Il semblerait aussi que depuis 40 ans, le projet actuel pour lequel le barrage devrait être fait, donc l'aide aux maïsiculteurs en approvisionnement en eau, est quand même le quatrième projet. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière ?
Bien sûr, s'ils tiennent tant à ce projet, parce qu'ils savent très bien que le dossier est pourri. C'est pour ça qu'ils veulent pas discuter, hein, c'est clair. Mais ils savent aussi que s'ils cèdent là-dessus, il va y avoir d'autres problèmes. Parce que il faut savoir qu'il y a une étude, par le bassin Adour-Garonne, qui s'appelle Prospective Adour-Garonne 2050. Et cette étude a été confiée à qui, devinez, à la CACG, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui fait ce projet de barrage de Tivens et qui a fait le projet de barrage de Fourogues, la vallée qui est au-dessus de sur la Vère. Donc c'est une société qui vit de faire des barrages, et évidemment toutes ces études, c'est de dire il faut des barrages. Et donc c'est vraiment scandaleux, c'est-à-dire qu'on paye des sociétés qui, comme solution, trouvent les solutions pour les faire vivre, alors qu'il y a bien d'autres solutions. Donc c'est vraiment, moi je pense qu'il y a, il y a des choses dessous, mais évidemment j'ai pas les preuves, mais il y a de la magouille, il y a des trucs qui sont pas clairs, et que les élus ils acceptent ça, c'est pas clair. Pour moi c'est pas clair. J'ai vraiment honte de mon conseil général, de l'État. J'espère qu'un jour ils vont entendre raison. Je salue tous les jeunes qui viennent, hein, qui sont venus ici et tout ça, avec leur dynamisme et tout ça. Je dois avouer que j'ai un peu peur vis-à-vis d'eux, parce que j'ai peur à la répression et tout ça. Je pense qu'ils ont raison, faut pas laisser passer. On peut pas laisser passer ça, parce que ça, c'est trop grave. Hein. C'est vraiment trop grave.
Pour les gens qui voudraient venir soutenir dans les jours qui viennent, comment faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà, et comment occuper vraiment?
Voilà, alors là, c'est si on a fait une on a appelé à la récupération le 15 août, c'est pour s'organiser, c'est vraiment pas faut bien que les gens ils comprennent qu'on va pas construire tout de suite, qu'on va pas être sur zone, qu'on va pas reprendre le contrôle de la zone. Pour l'instant, c'est eux qui l'ont, c'est pas nous. Et les gens qui veulent nous aider, il y a un point d'accueil pour l'instant fixe qui va rester ici à la maison de la forêt de Sivens, parce qu'on a le droit d'y être, parce qu'il y a des familles qui viennent jouer et autres. Donc nous on sera là. On a besoin de matériel de construction. On a besoin d'endroits où stocker le matériel à côté de la zone, pas très loin. On a besoin qu'il y ait des copains et des copines qui viennent. On a besoin que les gens fassent du relais, en parlent autour d'eux, et aussi que les gens envoient par exemple des courriers aux sous-traitants de la CACG, donc la compagnie qui est porteuse du projet. Voilà, aux entreprises de déboisement, aux entreprises EDF et autres qui font partie de ce processus-là.
Si on est par exemple sur Toulouse ou ailleurs, comment joindre la ZAD?
Alors il y a un numéro, il y a l'InfoZAD, et toutes les informations relatives aux contacts et autres, elles sont sur le site internet tantqu'ilyauradesbouilles.wordpress.com. Si vous souhaitez recevoir des informations, donc vous pouvez envoyer un mail sur le site, il y a l'adresse du collectif, et il y a aussi un numéro, une liste d'urgence, voilà, où vous recevez des SMS avec des codes couleurs, info verte, info orange, info rouge. Donc, c'est une lutte pour le vivant avant tout. Merci à vous.
On défend la vie, on s'aime et on s'engage. Ensemble on est l'avenir, laissez passer les sauvages. Et on défend la vie, on s'aime et on s'engage. Ensemble on est l'avenir, résistance et sabotage. Vas-y, vas-y, dégage, dégage. Résistance et sabotage. CACG, CACG, dégage, dégage. Résistance et sabotage. ONF, ONF, dégage, dégage. Résistance et sabotage. ONF, ONF, dégage, dégage. Résistance. Gros squattage, en grenade assourdissante, gaz lacrymogène, on défend notre terre-mère en se dressant contre DGM. Malgré les coups de tonfa et quelques tirs de flashball, la forêt n'est pas tombée et la lutte peut continuer. On peut dire enfin que tous nos efforts ont payé. Les gendarmes sont partis, le carrefour on l'a repris. La guerre n'est pas gagnée, mais ça nous refait une bataille et ça fait ZAD partout.
On a dit non, ça changeait tout ce que de passage. Et quand le gars fasse ce message, une robuste d'atterrissage en collectif et de décalage. Final au car, votre élo, c'est une spéciale dédicace. Donc on se casse, le Babylone, le contraste. On met la gomme, le pémo, même le dom. C'est tant que le grand matin. J'ai versé le feu à la vache, le feu, le feu sera mal. Le feu, le temps, ça fait comme moi. Et d'autres pédicules, tout ça, les chiffres sont bons. Car nous sommes élo,
qui délivre son message.
Qui dévoile l'une,
car l'aurore et son présage.
Par un nouveau jour plus sage,
qui dévoile son message.
On vient libérer nos âmes.
Jusqu'à la confinée dans l'âme.
Car nous sommes élo.
Qui délivre son message,
qui dépeint les lunes,
car l'aurore et son présage,
car un jour beaucoup plus sage,
nous dévoile son message entre ciment et belle étoile. On lève le soleil dans nos âmes et ça fait ZAD partout.
ZAD partout.
Et ça fait ZAD partout, là où s'en vont les caravanes. Et ça fait ZAD partout, là où la machine s'installe. Ça fait ZAD partout, là où se dessine la victoire. Et ça fait ZAD partout.
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 zad partout.
Et ça fait zad partout, et ça fait partout zad. CRCG, CRCG, dégage, dégage. Résistance et sabotage. CRCG, CRCG, dégage, dégage. Résistance et grosse patate. CRCG, CRCG, dégage, dégage. Résistance et sabotage. CRCG, CRCG, dégage, dégage.
CACG, donc la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui devrait effectivement, qui a prévu de déboiser à partir de début septembre, donc cette belle vallée du Testé. Je vous rappelle qu'il y a des contacts, et il y a notamment, si vous voulez vous rendre à la ZAD du Testé, ben c'est tout simple, vous allez par exemple sur le site des Bouilles, tant qu'il y aura des bouilles.wordpress.com, et puis il y a donc un numéro de téléphone qui est le numéro donc direct de la ZAD, le 07 89 666 434. Ça c'est le numéro de la ZAD, et également vous avez le collectif Testé que l'on joint sur le www.collectif-testé.org avec leur programme de ce week-end, du week-end du 23-24 août. Le Testé, donc c'est toujours le barrage du Testé, c'est toujours non. Voilà, c'était des petits papiers en direct de Canal Sud. Merci à vous et merci beaucoup à donc à l'UEA Prouvé de nous offrir encore une fois quelques précieuses minutes. Merci à Aude pour l'an 02. Et voilà. Et merci à tous les gens qui combattent donc tous ces projets inutiles imposés et qui défendent cette belle petite planète. Salut, c'était les petits papiers. Bye bye.
Toulouse, mais dis c'est populaire. Toulouse, mais dis c'est populaire.